des relations extérieures, porte-parole du HCR, ici dans la région de Washington, précisément à Silver Spring dans le Maryland, Maître Joseph Fa, avocat spécialiste de l'immigration. Et à Douala, au Cameroun, Daniel Munzego, il est pasteur, président de l'association Réfugiés sans frontières. Merci à tous d'être avec nous. Et je démarre avec vous, Céline. Pourquoi la question du droit d'asile est sur la sellette cette année? Est-ce que c'est un droit qui est menacé?
Alors, tout d'abord, et vous l'avez dit dans votre reportage, c'est que le nombre de personnes déracinées dans le monde ne fait qu'augmenter, et donc les besoins de protection sont importants. Le nombre de réfugiés, mais aussi le nombre de personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Et oui, on voulait lancer cet appel avec notre rapport sur les tendances de déplacement forcé dans le monde. On voulait lancer cet appel aussi sur pourquoi les personnes ont besoin d'être protégées et cette importance, cette obligation internationale du droit d'asile, que les personnes qui fuient, peu importe la région où elles se trouvent, peu importe le moment, doivent pouvoir demander l'asile. Il y avait des difficultés par rapport à ça aussi qui étaient liées à la pandémie de Covid, où il y a eu des fermetures de frontières. On avait rappelé justement ces obligations internationales aux États. Il y a aussi des situations qui nous ont préoccupés, comme par exemple aux frontières externes de l'Union européenne. Donc oui, il est crucial aujourd'hui, dans cette situation, de rappeler ce droit d'asile, mais aussi ce besoin de solidarité internationale, de partage des responsabilités au niveau mondial pour trouver des solutions pour les personnes qui sont déracinées et arrêter cette tendance qui est chaque année d'une augmentation encore du nombre de personnes qui sont déracinées à cause de conflits qui se prolongent et de nouvelles situations de crise.
Tout à fait. Alors, Maître Joseph Fa, lors du dernier sommet des Amériques à Los Angeles, Washington a demandé aux pays latino-américains un renforcement des procédures de demande d'asile dans leurs territoires respectifs. Est-ce une manière de réduire le nombre de demandeurs d'asile en territoire américain, selon vous?
Bien évidemment, M. Abdourahman, nous avons perçu cela comme une tentative de restreindre l'opportunité pour les migrants venant de l'Amérique latine et plus récemment venant également de l'Ukraine, de l'Afrique, de pouvoir demander l'asile dans les pays intermédiaires, dans les pays dans lesquels ils voyagent ou ils traversent en direction des États-Unis, avant de pouvoir arriver aux États-Unis. C'est un programme selon lequel, si vous avez l'opportunité de vous arrêter au Mexique, de séjourner au Mexique, demandez d'abord l'asile au Mexique avant de pouvoir arriver aux États-Unis. Naturellement, si vous avez l'asile au Mexique, si vous avez un statut légal au Mexique, vous ne pouvez donc pas revenir aux États-Unis et demander de l'asile. Ce qui fait donc que ça diminue le nombre de demandeurs d'asile en direction des États-Unis.
Et on constate que sur cette route, il y a aussi beaucoup d'Africains, n'est-ce pas? De plus en plus.
Bien évidemment, ces dernières années, nous avons une montée très puissante des Africains qui font le chemin, qui traversent une dizaine de pays. Je vais prendre par exemple les Camerounais qui partent du Cameroun, atterrissent en Équateur, partant de l'Équateur, faire la Colombie, faire le Nicaragua et toute la jungle panaméenne. Tous ces pays, je pense finalement Guatemala, Mexique, ou vous parlez aux États-Unis.
Alors, maître, Daniel Munzego, sur la base de votre expérience sur le terrain, est-ce qu'il est facile pour un réfugié en Afrique d'obtenir le droit d'asile dans un autre pays africain, disons?
Merci, M. Abdou, de m'avoir passé la parole. Et je pense que ce n'est pas très facile d'être connecté avec les autres. Je dirais que l'obtention de l'asile est très difficile et va être aussi dans la vie. Parce que là où il n'y a pas de disposition de statut réglementaire pour reconnaître le statut de réfugié, il est presque impossible d'avoir le statut de réfugié parce que nous pouvons prendre le cas du Cameroun. Depuis 2005 que le président a promulgué la loi portant statut de réfugié, aucun réfugié ne détient le document délivré par le gouvernement camerounais. Donc, il ne peut prétendre à rien. Donc, il suffit pas de reconnaître le statut de réfugié par le HCR, mais il faut après que le gouvernement puisse lui accorder l'asile. Donc, c'est presque impossible. Hein. Les gens sont là 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas vraiment cette reconnaissance de passer le pire. C'est même ça la raison pour laquelle les gens font pression pour aller dans le pays pour reprendre l'asile normalement.
Alors Céline, peut-être c'est une question sur laquelle vous voulez réagir, mais avec la crise ukrainienne, est-ce qu'il faut s'inquiéter que la situation des réfugiés en Afrique soit reléguée au second plan, comme le craignent certains, sachant que nombre d'entre eux se trouvent, en tout cas trouvent refuge dans des pays voisins ou se déplacent à l'intérieur de leur pays?
Oui, et vous l'avez dit, la majorité des réfugiés dans le monde se trouvent dans les pays voisins des pays qu'ils ont fui. Un grand nombre de pays de réfugiés se trouvent dans des pays à revenus faibles ou modérés. Et donc, ces pays-là ont besoin de soutien pour pouvoir accueillir les réfugiés, pour pouvoir protéger les réfugiés. Et c'est un appel qu'on a lancé cette année aussi. Bien sûr que la crise de déplacement de réfugiés ukrainiens a été d'une grande ampleur, d'une vitesse aussi sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'elle pose des défis et qu'il faut une action, qu'il faut une solidarité. Il y a eu beaucoup de solidarité et d'action, mais il ne faut pas oublier les autres situations de déplacement dans le monde, les autres crises qui sont parfois moins visibles, qui peuvent être oubliées. Donc c'est un appel fort et on a mis aussi justement l'accent sur des situations de déplacement à l'intérieur de leur propre pays, parce que des personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont aussi dans des situations de vulnérabilité et parfois font face à des défis additionnels qui peuvent être liés aux effets du changement climatique, aux effets aussi de la pandémie de Covid, maintenant aussi des risques accrus d'insécurité alimentaire parce que des crises globales comme celle de la guerre en Ukraine ont des conséquences dans d'autres pays. Donc oui, il faut soutenir les pays qui accueillent la majorité des réfugiés et il faut les soutenir aussi dans la protection des réfugiés et ça fait partie de ce partage de responsabilités au niveau mondial aussi, le renforcement des capacités par exemple, et il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place pour ça aussi.
D'accord. Alors, Maître, je crois beaucoup de réfugiés africains préfèrent demander l'asile aussi dans des pays plus nantis, des pays occidentaux. Les États-Unis ont ce qu'ils appellent le TPS qui permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'un statut légal temporaire. Les Camerounais, d'ailleurs, des régions anglophones en sont les derniers bénéficiaires, si on peut dire. Comment est-ce que vous appréciez ce statut, sachant que son renouvellement n'est pas toujours garanti et il peut dépendre des gouvernements en place?
Bien, je voudrais rapidement mettre quelques points d'éclaircissement là-bas. D'abord, le TPS, le statut de protection temporaire qui a été accordé, il s'agit d'un accord à tous les Camerounais, pas simplement les Camerounais de la zone anglophone.
Merci pour la précision.
Maintenant, pour revenir à la question, vous aviez dit beaucoup d'Africains préfèrent demander l'asile dans des pays nantis. Et je ne pense pas, pour ma part, qu'il s'agit d'un choix par rapport à la situation économique d'un pays, mais il s'agit plutôt d'un choix sécuritaire par rapport à la garantie qui sera accordée à leur liberté individuelle. Prenons par exemple le cas du Cameroun et ceux qui sont allés au Nigeria demander l'asile lorsque la guerre entre la partie anglophone et le gouvernement camerounais a commencé. Il y a beaucoup qui ont demandé, qui se sont réfugiés au Nigeria et qui ont été simplement transportés par le gouvernement nigérian et remis aux autorités camerounaises alors qu'elles ont fui le Cameroun pour demander l'asile au Nigeria. Alors, vous aviez besoin, lorsque vous vous sentez menacé, lorsque vos libertés individuelles sont piétinées, vous avez besoin d'une certaine garantie que lorsque vous êtes caché, vous avez retrouvé refuge quelque part, votre situation sera protégée, vous serez protégé du point de vue de votre sécurité, quitte à ce que la situation économique soit quand même une mesure d'accompagnement après. Pour arriver aux États-Unis, le statut de TPS qui a été accordé aux Camerounais, qui est d'ailleurs en existence depuis un bon nombre d'années, vient à point nommé, mais ce n'est pas un statut qui est permanent. C'est un statut qui est moins que celui d'asile. Le statut de TPS vous sera accordé par le gouvernement américain sur une durée de 18 mois et ça peut être renouvelé ou pas selon la situation humanitaire qui prévaut dans le pays qui a été désigné sur cette catégorie, dans le cas échéant celui du Cameroun. Et le gouvernement qui vient en fonction de sa politique peut décider de changer ou bien d'annuler ce programme. Donc c'était un programme qui ne garantit certainement pas une situation permanente, eux qui sont sous cette protection-là.
Mmh. D'accord. En tout cas, le Cameroun, Daniel Mounsego, reçoit beaucoup de réfugiés en provenance notamment de Centrafrique. Quelle est un peu leur préférence? Retourner chez eux, rester au Cameroun et essayer d'aller en Europe ou aux États-Unis, comme l'expliquait Maître Fa, ou peut-être ils se sentent plus en sécurité?
D'abord, je veux dire que le Cameroun ne soit plus le pays de réfugiés. Il y a même le Maroc, il y a même la Syrie, il y a beaucoup de Bon, par rapport à votre question, je peux dire que bon, nous avons commencé une étude sur le besoin de réfugiés et nous avons constaté que presque plus de 80% de personnes interrogées à Douala, dans les fonctions de France, en étant réfugiés interrogés et demandeurs d'asile, donc sur un peu plus de 200 personnes, plus de 80% sont pour la réinstallation. Et il y a très peu de gens qui aimeraient rester au Cameroun parce que, effectivement, ici, les droits des réfugiés sont donnés. Pour se déplacer d'une ville à une autre, il faut un laisser passer. C'est déjà si on a les papiers de réfugiés de la terre, il y a des cartes de réfugiés. Et déjà, ils ne sont pas libres. Donc, les gens ont besoin de quitter le pays pour aller reprendre une vie normale, une vie bien dormie, donc vraiment s'appeler et gagner leur vie.
D'accord. Donc, l'écrasante majorité qui préfère la réinstallation. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore N'Djamena nous dit l'asile, le droit d'asile devrait être au-dessus des restrictions pour limiter le flux de réfugiés. Il faudrait rechercher une vraie paix sans conflit, guerre et attaques qui sont à l'origine des déplacements massifs. Yao Marcelin Kofi à Abidjan, il écrit « Les personnes qui sont persécutées en raison de leurs convictions politiques, religieuses ou leur appartenance ethnique peuvent bénéficier du droit d'asile dans un pays tiers à condition de se conformer aux lois de cet état d'accueil. » Et puis Roméo Djotou, il est à Cotonou au Bénin, il nous dit que la situation des réfugiés a empiré ces 20 dernières années à cause de la mauvaise gouvernance. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington, le forum revient après une courte pause.
Salut Vini.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous, c'est nous,
c'est vous et nous.
Pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités dans nos studios à Paris, Céline Schmitt, responsable des relations extérieures et porte-parole du ACR à Silver Spring dans le Maryland, ici aux États-Unis, Maître Joseph Fa, avocat, spécialiste des questions d'immigration, et à Douala au Cameroun, Daniel Mounsego, vous êtes pasteur, président de l'association Réfugiés sans frontières. Alors Céline, Le gouvernement ivoirien a adopté un peu plus tôt ce mois un projet de loi visant à la mise en place d'un système d'asile efficace, entre guillemets. Avec la crise sécuritaire dans le Sahel, par exemple, des pays comme la Côte d'Ivoire vont certainement continuer à recevoir des réfugiés en provenance des zones touchées. Un peu le pasteur Munzeko l'évoquait sur le cas du Cameroun, la difficulté d'obtenir carrément un statut légal pour les réfugiés. Pour vous, c'est quoi un système efficace d'asile pour les pays africains qui accueillent, quoi qu'on dise, de plus en plus de réfugiés?
Oui, je pense que ce qu'il faut rappeler sur le continent africain, c'est aussi qu'il y a une convention spécifique qui est la convention de l'OUA, donc de l'Union africaine de 1969, sur la, justement pour la protection des réfugiés, qui découle en fait de la convention de Genève de 1951, qui est une convention au niveau régional, et qui permet ce qu'on appelle une protection prima facie, c'est-à-dire une protection collective pour les réfugiés, et quand ils fuient une situation pour qu'ils puissent avoir cette protection. Et donc, c'est un régime de protection en Afrique. Il faut souligner aussi, je pense, la grande générosité de nombreux États sur le continent qui accueillent des réfugiés dans les pays voisins, de pays qui ont des troubles, mais aussi les pays de plus en plus mettent en place des procédures de détermination individuelle de statut de réfugié. Et je voudrais rappeler ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans ce partage de responsabilités au niveau mondial, il y a aussi ce soutien qui doit être accordé aux pays, justement pour renforcer leur système d'asile, pour renforcer la protection, parce que c'est crucial pour des pays qui accueillent de nombreux réfugiés, parce qu'ils vont accueillir aussi des réfugiés qui viennent de pays voisins. Et donc ça fait partie aussi de nos recommandations pour ce partage de responsabilités. Mais je voulais juste revenir effectivement sur, je crois qu'il faut souligner cette générosité des pays voisins de la République centrafricaine, des pays voisins aussi du Soudan du Sud comme l'Ouganda, qui accueillent de nombreux réfugiés, mais qui ont besoin de soutien pour les accueillir, pour les protéger, et puis aussi pour les communautés hôtes qui ouvrent très souvent leurs maisons aussi.
Dans un système tout à fait informel, absolument. Alors, Maître Josepha, en Occident, c'est vrai, avec une montée du sentiment anti-immigration dans certains pays, comment est-ce que vous voyez l'avenir du droit d'asile? Est-ce qu'il est menacé? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Je dirais que l'avenir du droit d'asile est nécessairement menacé, surtout ces derniers temps avec un développement des politiques anti-migratoires. Nous pensons au cas de l'Angleterre avec le partenariat qui a eu lieu entre l'Angleterre et le Rwanda. Nous pensons au dernier développement sur la situation du droit d'asile entre les États-Unis et les pays riverains. Et nous pensons qu'il est besoin est plus que jamais de développer des politiques un peu plus fortes pour se rassurer que les conventions de 1951 et de 1969, naturellement contre la convention contre la torture, soient effectivement mises en œuvre et que dans les pays d'Afrique et les pays moins développés que les pays de l'Europe bien de l'Amérique puissent donner l'opportunité aux citoyens de s'exprimer de façon libre, parce que la plupart des gens qui demandent l'asile, ça découle des problèmes de liberté individuelle, de l'insécurité que les gens vivent.
Vous n'êtes pas tellement favorable à ce genre d'accord comme celui qui existe entre le Rwanda et le Royaume-Uni?
Absolument pas, je ne peux pas être favorable à cela. Je suis avocat d'immigration et l'accord qui est entre le Royaume-Uni et le Rwanda est dédié à absolument annuler le droit d'asile. Dites-vous bien, par exemple, que si vous êtes du Rwanda et que vous demandez l'asile au Royaume-Uni, et que, au vu de l'accord qui existe entre le Royaume-Uni et le Rwanda, on va vous transporter vers votre pays, le pays que vous avez abandonné parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Ça ne s'explique même pas. Et si vous êtes parti de ce pays, certainement parce que vous ne vous sentez pas en sécurité, parce que vous ne pouvez pas vous exprimer librement, comment comprendre que vous êtes retourné dans ce pays parce qu'il y a un accord, un partenariat économique entre les deux pays, un accord de coopération. Cela voudrait dire, à la limite, que l'homme n'est même plus vu comme humain, mais il est vu comme une marchandise. Parce que votre retour au Rwanda est favorisé par cet accord économique, cet échange financier qu'il y a entre les deux pays.
Céline, quelle est la position du HCR? Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations humanitaires qui semblent, en tout cas, rejeter ce concept.
Oui, le HCR s'est exprimé aussi à ce sujet en disant que ce n'était pas conforme à l'esprit et à la lettre de la Convention de Genève de 1951, que l'organisation est contre cette externalisation de l'asile, c'est-à-dire externaliser ses responsabilités vers d'autres pays, et que justement ce sont déjà certains pays dans le monde qui accueillent la majorité des réfugiés, et donc ce n'était pas non plus conforme au pacte mondial sur les réfugiés et justement à cet esprit de partage des responsabilités au niveau mondial.
Alors Daniel Munzeko, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre l'accent sur la prévention et le règlement des conflits pour limiter un peu cette crise des réfugiés, surtout pour les pays africains qui accueillent la majorité de ces réfugiés?
C'est vrai que la prévention et la résolution des conflits, c'est la solution idéale pour régler ce genre de questions. Mais il faut quand même, en remontant dans l'histoire, on sait que le pacte de l'Union est né suite aux guerres. Donc maintenant, aujourd'hui, on ne voit plus que seulement les guerres. Il y a les catastrophes naturelles, il y a les problèmes de sécurité des gens, il y a le problème de soins de sécurité, le fonctionnement des soins de soins de régime. Il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées, les états de l'équité. Et aujourd'hui, le concept de prévention de conflits et de soins de conflits doit être envisagé de façon plus large. Pour nous, on a dit que je pense que les causes de mouvement portées des gens, c'est souvent la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance liée surtout à la répartition inéquitable des ressources. Et donc, tant qu'il n'y a pas, le gouvernement n'assume pas la responsabilité de s'occuper réellement la population et partager évidemment les ressources, il y aura toujours les situations, il y aura toujours les conflits. Et les autres vont toujours exploiter cela pour nous distraire. Et finalement, je suis en train d'évoquer le cas de l'Angleterre. Bon, l'Angleterre, qui viole systématiquement la Convention de Genève en voulant se prêter les questions de l'immigration au Rwanda, c'est bien que nous n'avons pas d'accord, mais par rapport à ce que nous entendons dans les médias. C'est inacceptable, hein, parce que déjà pour aller à l'église, il y a un choix. Donc il faut que les gens aient choisi d'aller là où ils doivent aller, et puis il y a payé les prix de ça. Et puis il y a la convention de Genève. C'est-à-dire que si les gens sont arrivés là-bas parce qu'ils craignent d'être persécutés dans le même pays, et si l'Angleterre est partie aux conventions, ils doivent respecter la convention. Donc, c'est une violation vraiment flagrante. Et cette personne peut être débattue aussi au niveau des Nations Unies pour voir qu'il y a une limite en cause des institutions bien que morales.
D'accord, en tout cas merci beaucoup. Malheureusement, nous arrivons à la fin de ce Washington Forum. C'est une discussion qui peut se poursuivre sur nos pages, sur nos plateformes digitales. Vous pouvez continuer à commenter. C'était donc Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent et sur notre page Facebook, sur notre site voafrique.com. Je n'oublie pas, bien sûr, toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.